France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Impossible de commencer cette émission sans souhaiter un bon anniversaire à Superman. Et oui, il fête aujourd'hui ses 80 ans et toujours la même envie de justice et la peau glabre. Superman qui, sous son identité d'emprunt Clark Kent, travaille dans un journal, le Daily Planet. Et notre directeur à France Info a souhaité que l'on célèbre aussi à l'antenne la qualité du journaliste qu'est Superman. Il nous a donc tous accueillis ce matin avec un slip rouge sur son pantalon de costume. Voilà, tous les anniversaires sont-ils bons à fêter? En tout cas, moi, je m'interroge. Et eux, ils ont révisé l'actualité à la vitesse de la lumière. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Hamdam Mostafavi. Bonsoir.
Bonsoir.
De Courrier International, également Étienne Girard. Bonsoir.
Bonsoir.
De Marianne, Frédéric Matanti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir.
Bonsoir.
Du site d'information Atlantico. Et ce soir, nous parlerons des un an après le retrait des États-Unis de l'accord climat, quel bilan écolo pour Macron, également de Gérard Collomb, de rassemblement de... Non, pas du tout, parce que là, on va en parler dans un instant. On parlera également de l'Europe qui est bien content d'aller en week-end, hein, il est temps de souffler. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Ça y est, Marine Le Pen est présidente. Bon, du Rassemblement National, hein, parce qu'avant, elle dirigeait le Front National. Mais si le Front National, ce mouvement qui existait encore il y a 5 minutes, vous n'en souvenez pas? Bon, c'est vrai qu'à l'échelle de Twitter, 5 minutes, c'est une décennie. Hein. Adieu donc FN, voilà donc le RN, le nouveau nom, adopté par le militant à 80,81%, a été acté lors d'un Conseil National qui se tenait aujourd'hui à Lyon. Un nouveau nom pour un mouvement qui se veut aujourd'hui un parti de gouvernement, alors que les sondages ne brillent pas, que de nombreux cadres abandonnent le navire et que la nièce Marion Maréchal revient, mais il ne faut pas le dire, Marine Le Pen tente le ravalement de façade pour se relancer, enfin seulement un peu, selon le député du Gard, Gilbert Collard.
Changer de nom parce que il y a une volonté de rassembler qui s'exprime par le mot Rassemblement National. Et puis aussi, c'est l'idée qu'on pourra peut-être arriver à se débarrasser des schémas diabolisants. À mon avis, on n'y arrivera pas.
Donc ça ne sert à rien.
On n'y arrivera pas. Mais bon... Moi, par esprit de camaraderie, je voterai le changement de nom. L'important, c'est que les idées, fondamentalement, ne changent pas et que le combat soit le même.
Voilà, Gilbert Collard, donc député Front National ou Rassemblement National. C'est étonnant quand même ce qu'il dit Frédéric Matonti, là, quand il dit on n'y arrivera pas à dédiaboliser.
Mais pour une fois, il a sans doute pas tort. C'est-à-dire que c'est le même parti, avec les mêmes courants, avec la même famille à la tête. Donc, rien ne change. Enfin, après que les partis changent de nom, c'est quand même un truc assez classique. Il n'y a qu'à regarder les Républicains et je ne sais pas combien de noms ils en sont depuis le RPF. Donc, ça fait pas mal.
Ouais.
Voilà. Après, si on parle de choses sérieuses sur la dédiabolisation,
oui.
La diabolisation, le problème, c'est que je trouve que le traitement que fait la presse du Front National est de plus en plus dépolitisé. Moi, c'est plutôt ça que je trouve
Pourquoi ?
Frappant. Bah, par exemple, il suffit de regarder comment on parle de Marion Maréchal Le Pen. Alors d'abord, elle demande à ce qu'on change de nom et toute la presse y va. On dit, bah oui, elle veut s'appeler Marion Maréchal, allons-y. Et puis, on traite du problème comme la rivalité entre une tante et une nièce, alors qu'en réalité, c'est une rivalité de courant au sein du FN, et que c'est bien ça qui est en train de se jouer, et pas du tout une rivalité familiale, hein, en dehors du fait qu'effectivement, c'est un parti patrimonial. Donc voilà, et elle est traitée comme quelqu'un de people. J'ai entendu ce matin la revue de presse. Toute la presse s'extasiait sur sa petite phrase autour de MeToo. Enfin, c'est absolument effarant, alors que précisément, il y aurait des choses à dire. Elle est beaucoup plus à droite que Marine Le Pen.
Marine Le Pen, on va juste en parler dans un instant, mais Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que c'est utile un changement de nom justement pour se relancer? Là, rassemblement, ça veut dire que Marine Le Pen souhaite bien sûr s'étendre à des alliances. Elle a proposé d'ailleurs hier pour les élections européennes une alliance de nouveau à Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que ça sert...
Qui s'est empressé de dire non.
Voilà, exactement. Est-ce que ça sert à quelque chose, un changement de nom véritablement, se relancer comme ça? Pour se relancer.
La question théorique, dans l'absolu, est-ce que ça sert de s'appeler Twix plutôt que Raider? Et puis après, il y a la question pratique, est-ce que pour le Front National, à ce moment-là, ça peut servir à quelque chose? De ce point de vue-là, je suis d'accord avec Gilbert Collard, c'est beaucoup trop tard. Marine Le Pen, si elle avait voulu le faire, aurait dû le faire au moment où elle a pris le parti ou au moment où elle s'est débarrassée de son père politiquement, ou à minima après la dernière présidentielle. Maintenant, elle est de toute façon porteuse de ce nom-là, et quoi qu'il en soit, elle, contrairement à sa nièce, qui a le droit malgré tout de se faire appeler comme elle le souhaite, comme chacun d'entre nous, elle n'a pas moins de liberté que d'autres, il lui reste ce nom Le Pen. Donc, en plus, là, le mot rassemblement, alors que le FN n'a jamais rassemblé aussi peu de gens, effectivement, elle a tenté cette espèce d'appel désespéré à Nicolas Dupont-Aignan qui l'a refusé. L'économiste en chef du Front National a quitté le Front National. Donc, ce qui fait, que reste-t-il au FN? Parce que c'est-à-dire que le rassemblement autour de ces idées, encore faudrait-il qu'on sache un peu ce que sont ces idées, parce qu'on voit les fondamentaux du FN sur l'immigration, sur l'insécurité, on voit un positionnement anti-système, mais à part ça, de manière plus précise, on ne le voit plus. Oui. Avec Florian Philippot, il y avait un discours qui, on pouvait y adhérer ou ne pas y adhérer, était plus structuré. Là, bien malin, celui qui est capable de dire ce que Marine Le Pen pense de la sortie de l'euro, ou même à l'heure actuelle, de ce qui est en train de se passer en Italie. Donc, je trouve que, d'un point de vue marketing, appeler ça un rassemblement quand vous ne vous rassemblez même plus d'ailleurs sa propre famille, parce qu'on le voit bien justement, Marion Maréchal, elle ne veut même plus utiliser le nom, et puis elle s'illustre sur tous les plateaux ailleurs, c'est paradoxal.
Hamda Mostafavi, c'est vrai que la ligne du Front National aujourd'hui, on a vu dans un précédent meeting Marine Le Pen revenir finalement sur des fondamentaux, énormément sur l'immigration, ça aurait été davantage intéressant qu'un simple changement de nom.
Oui, c'est-à-dire que là, ils ont un problème d'identité, de savoir comment se définir. À partir du moment où leurs idées se sont vraiment diffusées, malheureusement, dans la politique, ils ont un problème pour redire qui ils sont et qu'est-ce qu'ils interprètent. Et pourquoi aujourd'hui, quelqu'un comme Marion Maréchal a en effet le vent en poupe bien plus que Marine Le Pen? C'est parce qu'elle, elle incarne une opposition totale sur tous les sujets à Emmanuel Macron. Elle montre, elle est souverainiste, elle est catholique, elle défend que des valeurs très extrêmes, là où le message de Marine Le Pen,
le catholicisme n'est pas une valeur extrême.
Non, pas du tout, mais avec le mouvement...
Le souverainisme en soi, non plus.
Elle défend un catholicisme intégriste, quand même.
Oui, c'est ça, avec le mouvement, elle est proche, quand même, des mouvements anti-mariage pour tous, etc.
Oui, c'est ça, oui, notamment Civitas Ursachi.
C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Je m'excuse auprès de tous les catholiques.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Mélodie Pépin.
L'Union européenne porte plainte contre les États-Unis, plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Washington a déclenché une guerre commerciale hier en imposant une hausse des droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'UE, du Canada et du Mexique. Taxe appliquée depuis ce matin, les Européens n'obtiendront rien avec la faiblesse, a mis en garde Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Des nouvelles têtes pour diriger l'Italie et l'Espagne. Giuseppe Conte, un juriste, a été investi cet après-midi à Rome et prend la tête d'un gouvernement populiste qui promet une politique sécuritaire et de relance. En Espagne, c'est un socialiste, Pedro Sanchez, professeur d'économie, qui prend les commandes après avoir renversé Mariano Rajoy, visé par une motion de censure. La grève à la SNCF a repris ce soir, 13e séquence, des perturbations à prévoir tout le week-end, comptez 4 TGV sur 5 et seulement 1 TER sur 2 et 2 intercités sur 5. Ils ont fait rire et aussi choquer les guignols de l'info. C'est bel et bien terminé. Après 30 ans de diffusion, l'émission satirique disparaît de Canal+ à la rentrée. Des guignols aseptisés depuis l'arrivée de Vincent Bolloré qui avait dénoncé un abus de dérision. Et puis à Roland-Garros, mauvaise journée pour les Français. Pauline Parmentier et Gilles Simon éliminés au troisième tour. Les matchs de Gaël Monfils et Lucas Pouille ont été interrompus par la pluie ce soir.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ne m'appelez plus jamais Front, hein, on peut dire ça ce soir, puisque désormais il faudra dire Rassemblement National. Le nom a été acté par les militants parti à 80,81%. Désormais, Marine Le Pen est donc présidente du Rassemblement National. Étienne Girard, finalement, la dernière référence qu'on a électorale par rapport au Front National, c'est le second tour, la présidentielle. Au second tour, Marine Le Pen, quand même, ramène sur sa personnalité 11 millions de voix. C'est-à-dire que c'était quand même un score historique pour le Front National. Est-ce qu'il est toujours aussi important, ce matelas de voix, pour le Front National aujourd'hui, où il s'est dilué, ou est-ce qu'il représente encore, c'est aussi fort le Front National?
Paradoxalement, par rapport à tout ce qu'on dit depuis la présidentielle, ce matelas, il se dilue assez peu. C'est-à-dire que au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen, elle était à 21%, si je me souviens bien. Aujourd'hui, dans les sondages, ils sont entre 19 et 20%.
Ah oui, donc ça ne bouge pas trop.
Ça reste relativement stable. Ce qui laisse à penser que l'engagement pour le Front National est beaucoup plus fort que pour la majeure partie des autres partis. Mais le problème du Front National, il n'est pas là. Ils ont en effet une base militante, une base sympathisante plus importante que les autres partis. Mais pour arriver à 50%, ils ont un gros problème de plafond de verre, comme on a dit. Et ils ont aucune solution pour exploser ce plafond de verre. On parle de Marion Maréchal Le Pen. Elle exerce, c'est vrai, un certain pouvoir d'attraction auprès d'une certaine droite. Ouais. Aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de rassembler les différentes droites françaises. Et quand on veut être président de la République et qu'on vient de cette famille politique-là, il faut rassembler à la fois la famille bonapartiste, à la fois la famille libérale et la famille plutôt centriste. On n'en est pas du tout là. Donc, on est à des années-lumière d'avoir un président de la République Front National.
Jean-Sébastien Ferjou, vous vouliez réagir.
Non, oui, parce que je crois que c'est en trompe-l'œil, les scores du Front National, effectivement, ça s'est pas tellement dilué depuis, mais c'est aussi un parti protestataire. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui arrive au Front National, c'est que le Front National avait réussi à se transformer en parti d'adhésion réelle, à la fois sur le discours, sur les fondamentaux, l'immigration, l'insécurité, et qu'à un moment donné, il y a eu dans le pays des électeurs qui réellement avaient plus envie que ce parti-là arrive au pouvoir. Maintenant, je pense que, mais ça, c'est difficile comme ça, en regardant juste le chiffre, je pense qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à voter Front National, mais sans y croire vraiment. C'est-à-dire que si la question se posait réellement de voter à une présidentielle avec des sondages indiquant que Marine Le Pen serait à 49,5% ou X candidat FN serait à 49,5%, ils hésiteraient. Parce qu'il n'y a pas que la question de l'adhésion au discours, il y a quand même la capacité à gouverner. Et là-dessus, le Front National a énormément perdu. Il y a aussi autre chose quand même qui joue, c'est que depuis, Emmanuel Macron a été élu. Et que le fameux clivage que nous présentait le Front National et Emmanuel Macron lui-même. Parce que d'ailleurs, la meilleure preuve en est qu'Emmanuel Macron, il a changé d'interlocuteur. Maintenant, il s'est pris Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est tout aussi artificiel que de s'être choisi Marine Le Pen. Mais enfin, au moins, Marine Le Pen, elle avait été choisie par les Français. Ouais. Mais le clivage entre une vision ouverte du monde, une vision plus libre, plus ouverte aux différences culturelles, etc., et des gens plus enracinés, essayant plus de se défendre. Quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit aux États-Unis ou ailleurs, on pourrait se dire que justement, avec un Emmanuel Macron qui n'hésite pas à être jusqu'à parfois dans la provocation sur sa vision à lui, en assumant que il est prêt à ébouriffer tous ceux qui pensent pas comme lui, en toute logique, le Front National aurait dû grimper. Eh ben non, il a pas grimpé, il s'est pas effondré. Mais il n'a pas grimpé.
Et surtout, Frédéric Matonti, on voit, alors même s'il n'y a pas de groupe Front National à l'Assemblée nationale, on voit quand même des députés, même assez absents. On se souvient de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle qui avait dit « sur la loi travail, moi je ferai des propositions ». Et en fait, ils n'ont fait des propositions que sur les fondamentaux qui est asile et immigration, pas sur les
mais
autres
c'est,
sujets.
Mais c'est là-dessus que se trouve leur fonds de commerce, il faut aussi ne pas oublier. Et puis, c'est vrai qu'il y a un plafond de verre. Maintenant, il faut faire très attention parce qu'on avait toujours l'impression qu'un score comme celui qu'elle a fait au deuxième tour était absolument inatteignable. Le vrai problème du FN, à mon sens, c'est pas tellement la base militante, parce qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Le vrai problème du FN, c'est son absence de cadre. C'est-à-dire qu'il a très très peu de personnes qui sont susceptibles d'être chef de cabinet, ministre, etc. Et on voit bien, ceux qui tournent à la télé, c'est toujours les mêmes, parce que les autres sont quasiment pas présentables. Bon, c'est ça le vrai problème. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et quel est le matelas de voix? Tant qu'on n'a pas vu l'élection, on ne le sait pas. Moi, je ne sais pas exactement si je suis d'accord avec l'un ou avec l'autre. Moi, j'ai tendance à penser qu'en réalité, le matelas de voix, il est toujours là, que la politique que fait Macron, la politique ultra-libérale, c'est quelque chose qui, au contraire, devrait fort logiquement, hélas, donner des voix au FN.
En tout cas, on verra pour le premier test véritablement électoral, ça sera donc pour les élections européennes, et ça tombe bien parce qu'on va parler d'Europe maintenant. Vous savez, c'est étonnant de voir que parfois tout se passe bien et vous savez pas pourquoi d'un coup tout s'écroule un peu lorsque vous réveillez heureux d'avoir passé une bonne nuit et paf, voilà, vous vous cognez le petit doigt de pied en vous levant. C'est terrible, hein. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans l'Union européenne. En 24 heures, on a appris que finalement c'est bien un gouvernement populiste qui allait prendre les rênes en Italie, composé des membres du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, alors que l'on pensait qu'un gouvernement dit technique était en train de se former. En Espagne, le Premier ministre...
Et vous trouvez que tout se passait bien?
Bien sûr, donc, exactement, un gouvernement technique, c'est formidable. Voilà, tout à fait. En Espagne, le Premier ministre Mariano Rajoy, empêtré dans un scandale de corruption, a été renversé pour laisser place à un socialiste, Pedro Sanchez. Problème, pour faire passer sa motion de censure, Sanchez a obtenu le soutien soutien de la gauche radicale, Podemos, mais également des autonomistes basques et séparatistes catalans, qui ne partagent pas ces idées, mais n'aimaient pas du tout Mariano Rajoy. Si on ajoute à cela la grenade envoyée par Donald Trump afin d'augmenter les taxes sur l'acier et l'aluminium européen, on se dit qu'il était temps que le week-end arrive pour l'Union européenne. En tout cas, au niveau de l'Italie, pour l'instant, eh bien, eux pensent que ça se passe bien. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte.
Nous allons travailler intensément pour réaliser les objectifs politiques que nous avons prévus dans le contrat de gouvernement. Nous allons travailler avec détermination pour améliorer la qualité de vie de tous les Italiens.
Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, Hamdan Mostafavi, un gouvernement dit populiste au pouvoir en Italie. Est-ce que c'est possible de travailler avec lui? On se souvient de la Commission européenne qui avait dit ça va être compliqué pour nous de travailler avec. Est-ce que les partenaires européens s'apprêtent à travailler avec ce gouvernement comme n'importe quel autre gouvernement?
Ils vont pas avoir le choix de travailler avec tout ce nouveau gouvernement. Mais ce qui va largement compliquer l'affaire, c'est que ils ont nommé pour les relations avec l'Europe le fameux Savona, qui était l'économiste qui posait problème.
Exactement.
Justement, et qui a échoué dans la formation du gouvernement. Donc oui, l'Europe est obligée de travailler avec eux, mais quelle Europe va-t-il rester? Quelle Europe va pouvoir s'organiser justement avec un parti eurosceptique au cœur de l'Union européenne? L'Italie n'est pas un pays fondateur, mais c'est un pays fondamental dans l'Union européenne. En plus, à côté, vous l'avez dit, on a l'Espagne qui est un pays profondément europhile, qui va se retrouver quand même dans une situation un petit peu compliquée. Mmh. Donc ça va être compliqué à Bruxelles,
compliqué. Étienne Girard, c'est un danger, d'après vous, pour l'Europe, un gouvernement comme celui qui vient de s'installer à Rome?
On verra, mais le véritable danger, c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est ce qui s'est passé en début de semaine. Le veto mis par le président italien à la nomination d'un ministre des Finances demandé par ces deux partis anti-système qui ont la majorité du Parlement italien, c'est un tract pour tous les partis populistes d'Europe. Mmh. Donc, à mon sens, laissons sa chance à cette coalition. On verra peut-être en effet que des problèmes se poseront dans les prochains mois. Mais cette attitude qui est de dire les partis populistes n'ont pas le droit de gouverner parce que ça changerait trop de choses et que les marchés réagiraient mal, c'est une manière de réagir qui, je pense, est totalement contre-productive.
C'était une publicité énorme, en fait. Allez, on va continuer à en parler, justement, de cette situation en Europe. L'info à 20h20, Mélodie Pépin.
Le FN n'existe plus, place à Rassemblement National. Le nouveau nom a été officialisé tout à l'heure par Marine Le Pen à Lyon. Il a été approuvé par plus de 80% des adhérents. Un nom plus fédérateur pour le parti d'extrême droite en recherche d'alliés. Jean-Marie Le Pen dénonce une trahison. Impossible de payer avec sa carte Visa ce soir en Europe. Des files d'attente s'allongent dans les magasins. La société Visa annonce une interruption de service empêchant certaines transactions. Elle assure tout faire pour résoudre le problème. La panne n'affecte pas les retraits aux distributeurs. Un important trafic de drogue démantelé à Marseille. Après 6 mois d'enquête, une quinzaine de personnes ont été interpellées. Elles trafiquaient juste sous les fenêtres des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Du cannabis, des armes et 19 000 euros ont été saisis. Donald Trump a reçu ce soir le bras droit de Kim Jong-un à la Maison-Blanche. Une nouvelle manœuvre diplomatique pour sauver le sommet historique entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le président américain s'est fait remettre une lettre personnelle du dirigeant nord-coréen. Et puis le retour des Bleus ce soir en football. Deuxième match de préparation pour le Mondial. C'est face à l'Italie dans moins de 20 minutes. La France s'attend à un match difficile, même si l'Italie n'a pas été sélectionnée en Coupe du Monde. Et voici le trio d'attaque dévoilé: Dembélé, Griezmann et Mbappé.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, l'Europe n'est pas au mieux de sa forme et notamment aujourd'hui, donc il y a eu la confirmation donc de la mise en place d'un gouvernement dit populiste en Italie. Vous savez, un gouvernement à la fois géré par le mouvement 5 étoiles et la Ligue, hein, ça c'est donc en Italie. Frédéric Mattonti, pour vous, ce gouvernement, il va avoir véritablement de l'influence en Europe pour le reste des populistes, ou ça va être regardé de près.
Le terme populiste, c'est un terme, je trouve qu'il faut appeler un chat, quoi. Là, on a des partis d'extrême droite qui arrivent au pouvoir.
Mouvement 5 étoiles, on ne sait pas.
Ouais. Le programme est quand même clairement, ce qui a été dit sur l'immigration, etc., c'est quand même clairement de l'extrême droite, faut le dire. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que, effectivement, on a parlé du problème des marchés. Je me souviens quand Haider était arrivé au pouvoir en Autriche. Voilà. On parlait d'un problème de fond, qui était une question de valeur. Est-ce que les valeurs de ce type de parti sont compatibles avec les valeurs humanistes de l'Europe? Là, je trouve que c'est un discours qu'on oublie. Parce que c'est ça la véritable difficulté. Les premières victimes du système, de ce qui est en train de se passer en Italie, ça va être les Italiens, ça va être les émigrés en Italie, avant de se poser la question des marchés. Donc de temps en temps, je pense qu'effectivement l'Europe se tire des balles dans le pied quand elle fait des choses comme le petit numéro d'hier, alors que la vraie question, mais qui vaut aussi pour certains pays de l'Est, c'est la question des valeurs. Est-ce que les valeurs défendues par ce type de parti sont compatibles avec les valeurs européennes fondatrices? Et la réponse est non. C'est en cela aussi que le cas espagnol n'a aucune comparaison possible.
Oui, bien sûr. Je ne voyais pas content sur ce que disait Frédéric Matonti.
Non, mais on fait quoi là? C'est ça la vraie question. Il y a des majorités en effet populistes, possiblement xénophobes. En Hongrie, on a en effet un premier ministre xénophobe depuis de nombreuses années. On fait quoi? On les exclut de l'Union européenne. On fait quoi? On fait une autre union avec les pays qui partagent à l'instant T nos valeurs. C'est extrêmement compliqué.
Mais le minimum syndical, ça peut pas être la question des marchés. C'est bien comme ça que ça se passe. C'est-à-dire le minimum syndical,
ce qu'il faut dire
sur lequel il y a protestation, c'est les marchés.
Un mot quand même pour dire comment on en est arrivé là en Italie aussi. C'est parce que aussi à un moment donné, l'Union européenne a elle-même échoué dans ses valeurs humanistes par rapport aux propres membres de l'Union européenne. À partir du moment où on a abandonné les Italiens avec le problème de l'immigration, genre débrouillez-vous, et pareil avec les pays de l'Est qui sont à la frontière de l'Europe, on peut pas s'étonner qu'après les Italiens, d'une manière ou d'une autre, se révoltent.
Jean-Sébastien Ferjou, pour vous, ce gouvernement, c'est quoi? C'est la résultante justement d'un échec de l'Europe?
Bien sûr, l'Italie était le pays le plus europhile qui existait. Donc l'Europe porte une responsabilité énorme. Après, il y a eu des erreurs de la classe politique italienne elle-même. Matteo Renzi, assez largement, est à l'origine de la situation, en ayant voulu un référendum pour des raisons qui avaient peut-être plus à voir avec de la petite stratégie politique ou avec son ego qu'avec de la grande pensée politique, justement. Mais oui, l'Europe en est responsable. Elle en est responsable quand on regarde d'un point de vue économique. D'un point de vue économique, l'Italie est moins riche en 2018 qu'elle ne l'était en l'an 2000. Donc ça, c'est une réalité. Et après, il n'y a pas que... Enfin, faut pas opposer les marchés et les valeurs, parce que les valeurs, oui, c'est très bien, mais ce qui compte, ce sont les actions. Je suis pas en train de dire qu'il faut renoncer à l'humanisme, c'est absolument... Enfin, ou à des valeurs respectant les droits de l'homme, la dignité des êtres humains de manière générale. Ce que je veux vous dire, c'est quelles sont les actions menées par les gouvernements. Que les valeurs inspirant la Ligue ou le mouvement 5 étoiles ne soient pas que roses, oui, ça, on peut le concevoir, mais ce qui va compter, c'est ce qu'ils vont faire. Et ce qu'ils vont faire sur la question de l'immigration. Je ne vois rien dans leur programme qui contrevienne à ce que l'Europe permet, pour le coup. C'est pas ça qu'on leur fait payer. Ce qu'on leur fait payer, c'est justement de dire « Mais votre système économique nous mène dans le mur. Pourquoi voudriez-vous que nous continuions à nous taper la tête plus longtemps contre le même mur ?» Et cette question-là, elle se pose à toute l'Europe depuis longtemps. Et ça reste la question centrale. Et il s'agit pas là de privilégier les marchés. Parce que pour le coup, moi, comme le disait tout à l'heure Étienne, j'étais très choqué de voir ce qui s'était passé cette semaine. Je vous ai même interrompu quand vous disiez « Tout allait bien ».
Non, mais bien sûr. En effet, quand le président italien en effet, a refusé la nomination de Tajani,
quand on voit des commissaires européens disant les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter, quand on voit un député allemand disant on va envoyer des gens pour prendre le pouvoir dans les palais à Rome et puis on va remplacer les ministres par des gens représentant la troïka européenne, on a envie de dire ils sont beaux les gens qui défendent la démocratie en Europe. Non mais réellement, c'est que la démocratie, c'est là où c'est la limite d'un discours construit que sur les valeurs, pardon, mais parfois il y a pas que les valeurs qu'on affiche, il y a les actions.
Je dis exactement l'inverse précisément, c'est-à-dire que
je parlais pas de vous. En l'occurrence, je parlais de ceux qui pensent défendre la démocratie en Europe et qui se revendiquent comme les démocrates essayant de s'opposer à des populistes, c'est-à-dire des populistes qui ont été élus.
Je crois qu'il faut ailleurs
des méthodes antidémocratiques.
Frédéric Matonti.
Tout mettre sur le dos de l'Europe, je sais bien que c'est une tentation fréquente, mais il faut aussi bien voir qu'on a affaire pour le coup en Italie comme en Espagne, à deux pays dans lesquels le système de parti s'est totalement effondré en raison notamment de la corruption.
Ça commence largement avec les erreurs de Matteo Renzi.
Non, mais ça commence bien avant. Alors, je veux dire, la question de l'effondrement des partis italiens, ça commence dans les années 90.
Madame Moussa Favi, une chose, bien sûr, l'immigration a joué un rôle dans ces élections de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, mais on voit aussi quand même qu'il y a le chômage aussi qui joue. Il y a des raisons sociales. Il n'y a pas que l'immigration qui joue aussi dans cette élection.
Oui, il y a des raisons économiques et comme on l'a dit tout à l'heure, ces raisons économiques sont, malheureusement, elles renvoient aussi à l'Europe. C'est pour ça que l'Europe est un peu le fourre-tout de la contestation. Mais c'est avant tout un système économique qui n'a pas fonctionné. Ces pays ne se sont pas relevés de la crise économique. On ne les a pas non plus beaucoup aidés. Et c'est là qu'il faut trouver une solution.
Allez, on va continuer. Dans un instant, on parlera également de Gérard Collomb. Hein, voilà, toujours en roue libre, hein, chaque semaine. En fait, voilà, c'est notre chronique du vendredi soir. Des informés de France Info. On revient dans quelques minutes.
Et si travailler avec l'international devenait un jeu d'enfant?
Tu sais qu'avec mon forfait Orange Pro, j'appelle en illimité vert et depuis toute l'Europe.
Ouais, et ben moi, avec mon forfait Orange Pro, je peux contacter mes fournisseurs au Brésil et en Russie.
Ah bah moi, grâce à tous mes gigas, je peux travailler sereinement avec mes clients aux States, hein?
Ah ouais, tu parles anglais toi maintenant?
Avec Orange, travaillez plus facilement avec l'international grâce à la gamme Performance Pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Du 1er au 10 juin, c'est la semaine de la coopération agricole.
Les coopératives agricoles vous ouvrent leurs portes pour échanger, déguster ou s'amuser en famille ou entre amis.
Découvrez le programme sur lacoopérationagricole.coop.
Coopérer, c'est agir ensemble pour le bien commun.
France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un beau début de week-end, ce sera bien ensoleillé demain. Il faudra quand même composer avec la grisaille le matin, plus fréquente, des Hauts-de-France à l'Alsace et vers le sud de l'Aquitaine. L'après-midi, de bons moments de soleil, un peu plus de nuages, des Pyrénées vers le Massif central et les Alpes. On ne sera pas à l'abri d'une averse orageuse, mais ce sera essentiellement en montagne. Il fera 11 à 18 degrés le matin. L'après-midi, 21 à 29 degrés, 21 à Brest, Cherbourg, 25 à Paris, 27 à Lyon et à Cognac et les 29 à Nîmes. Dimanche, encore beaucoup de soleil de la Normandie et du Pas-de-Calais vers la région parisienne, le centre, le nord-est. Une nouvelle dégradation orageuse gagnera l'ouest et le sud. Il fera chaud, souvent 23 à 28 degrés. La semaine prochaine s'annonce plutôt chaud, d'une moyenne de 24 à 26 degrés l'après-midi. Ce sera à nouveau instable, avec un risque d'orage pratiquement partout. Seules les régions voisines de la Manche devraient rester à l'écart.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Le trafic SNCF de nouveau perturbé demain et même à partir de ce soir. 25e jour de grève depuis début avril. Comptez avec 4 TGV, 2 intercités sur 5, 1 TER sur 2. En Ile-de-France, 7 transiliens sur 10 et 3 trains sur 4 pour ce qui est de l'international. L'Union européenne porte plainte à l'OMC contre les États-Unis et la Chine après la décision la nuit dernière américaine d'augmenter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. En ce qui concerne Pékin, Bruxelles s'en prend au transfert de technologies des entreprises européennes actives en Chine. L'économie américaine, justement, elle a encore affiché son dynamisme le mois dernier en créant plus d'emplois que prévu. Le taux de chômage tombe à son plus bas niveau outre-Atlantique en 18 ans. Une page de l'histoire politique espagnole se tourne, coulée par un scandale de corruption. Mariano Rajoy a été renversé par le Parlement espagnol. La motion de censure contre le chef du gouvernement a été adoptée par une majorité de 180 députés sur 350. Comme prévu, le dirigeant conservateur sera resté au pouvoir plus de 6 ans en Espagne. Il est remplacé par le socialiste Pedro Sanchez, à qui le Parlement a accordé sa confiance dans la foulée. Après l'Irlande, lundi, l'équipe de France de football affronte ce soir à Nice l'adversaire le plus huppé de sa préparation mondiale de 2018. C'est l'Italie. Et vous êtes en direct de l'Alliance Riviera du stade Jean-Baptiste Marie. Le match démarre dans une petite demi-heure.
Effectivement, pour ce match face à l'Italie, et Didier Deschamps qui procède d'ores et déjà, on le sait, à 7 changements par rapport à l'équipe qui a battu l'Irlande 2 à 0 lundi. 7 changements avec une attaque de feu, très jeune attaque française. Dembélé, Griezmann, Mbappé pour le trio offensif de l'équipe de France ce soir, qui effectivement affronte l'adversaire le plus coriace de sa préparation avant le mondial. C'est dans deux semaines, il faudra être prêt dans deux semaines face à l'Australie. Certains joueurs comme Paul Pogba, on le sait, vont jouer gros ce soir face à un adversaire comme l'Italie. Paul Pogba qui n'avait pas joué le premier match de préparation l'année dernière, en tout cas il n'était pas titulaire. Donc voilà, on suivra aussi certains joueurs, certaines performances des Français pour que Didier Deschamps petit à petit aligne son 11 type. En face il y a l'Italie, l'Italie jeune avec certains joueurs revanchards également comme Mario Balotelli le niçois. Coup d'envoi à 21h.
Jean-Baptiste Marie en direct de Nice, merci. Le tennis à Roland-Garros, Pauline Parmentier, Gilles Simon éliminés au troisième tour. Les matchs de Gaël Monfils et de Lucas Pouille ont été interrompus par la pluie. Porte d'Auteuil, ils reprendront demain samedi. Et puis c'était l'une des émissions phares de la grande époque de Canal+, depuis leur lancement en août 88, il y a près de 30 ans. Les guignols disparaîtront de la grille à la rentrée. Vincent Bolloré, le nouveau PDG, avait dénoncé l'impertinence des marionnettes. Il est 20h33 sur France Info, les informés. Deuxième partie, c'est tout de suite.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et oui ça discute, hein, jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de ATNT, et eux ils font un peu des claquettes sur le parquet ciré de l'actualité, et ce soir les informés de France Info reçoivent Amdam Mostafavi de Courrier International, Étienne Girard de Marianne, Frédéric Matonti, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Jean-Sébastien Ferjou du site d'information Atlantico. Juste encore une question, vous étiez en train de parler de l'Europe, du gouvernement italien, donc ce nouveau gouvernement qui s'est installé aujourd'hui à Rome. Et il y a une autre actualité européenne, forcément, depuis hier. Ce sont ces fameux droits de douane augmentés par Washington. Et ça a mis véritablement l'Europe à l'épreuve, qui décide donc de porter plainte, hein, devant l'OMC. Et la réponse d'Angela Merkel à ça, c'est dire que la force de l'Europe, c'est l'Union. Alors, Frédéric Matonti, quand on voit tout ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est vraiment une force maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une union, d'après vous, pour faire face à ce genre de problème économique qui risque d'être très important, parce qu'on parle de guerre, hein, économique?
Eh ben, ça va être extrêmement difficile. Alors, en même temps, pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, on a l'impression quand même que les seuls intérêts qui restent un peu en Europe, c'est les intérêts économiques, hein. Donc, si ça doit marcher un peu, ça...
Mais ce qui est faux, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas du tout les mêmes intérêts que les Allemands vis-à-vis des États-Unis.
Bien entendu. Alors, mais par ailleurs, moi, ce qui me frappe aussi dans cette histoire, c'est il y a un espèce de refrain constant des éditorialistes sur France is back. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'histoire, c'est que la calinothérapie de Macron vis-à-vis de Trump, ça rate à tous les coups. C'est-à-dire, ça rate sur l'économie, ça rate sur l'Iran, ça rate sur les accords de Paris. Bon, voilà, on voit bien que le roi est dû, hein, à un moment donné. C'est pas simplement un problème européen.
Madame Mostafavi, il peut y avoir une réponse. Alors, c'est sûr, l'Europe a porté plainte. Voilà, l'Europe. C'est peut-être une première fois, je ne sais pas s'il y a une réponse en effet commune, mais est-ce qu'il peut y avoir en effet une réponse ensuite commune? On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même chose, est-ce qu'il peut y avoir une réponse commune face à cette hausse des tarifs de douane sur l'acier, l'aluminium? On a dit qu'on avait taxé certains produits, voilà, en plus c'était des produits qui sont dans les états pro-Trump, notamment le whisky, les gins,
non, mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'Europe d'être crédible, si on arrête d'importer des Harley Davidson et des oranges de Floride, je ne pense pas que l'économie américaine va totalement s'écrouler.
Oui.
Après, ce qui est possible, c'est que aux États-Unis, il y a eu quand même pas mal de débats sur le fait que Trump fasse ça et se fâche avec ses plus proches alliés, qu'il n'y a pas seulement l'Europe, il y a aussi le Canada,
le Mexique aussi, oui, c'est l'ALENA en fait.
Voilà,
ça, oui.
Donc il est possible qu'il y ait quand même un rétro-pédalage de Trump. Je ne pense pas que la solution viendra du côté européen, qui peut, comme on a vu comme sur l'Iran, ils ont essayé de trouver des solutions au refus de Trump de continuer l'accord iranien, qui avait beaucoup d'avantages économiques pour l'Europe. Ils n'ont pas vraiment trouvé de solution, ça va faire un mois. Donc là, on peut se dire que si ça se résout, à mon avis, ça viendra plus des États-Unis.
Jean-Sébastien Ferjou, quand on dit une guerre économique, c'est une guerre économique là, qui a été déclarée hier, qui s'est déclarée à minuit entre les États-Unis et l'Union européenne.
C'est une guerre des nerfs économiques, puisque c'est la stratégie qu'a employée Donald Trump vis-à-vis des Chinois qui a marché, que les Américains avaient employée vis-à-vis des Japonais dans les années 80 et les Japonais avaient battu en retraite. Parce que là, c'est très mal, les États-Unis ne respectent pas les règles du commerce international. Mais pourquoi le font-ils ? parce qu'on les respecte pas nous-mêmes, parce qu'il faut quand même revenir à la situation. Si on veut essayer d'avancer dans ce genre de situation, il suffit pas, comme Madame Merkel ou d'autres, de proclamer que l'Union a intérêt à être unie. Oui, dans l'absolu, oui, si on a envie de vivre dans un monde de rapport de force, et si on en avait la force. Malheureusement, je pense que l'Europe n'en a pas la force. Oui. Et donc, regardons la réalité. Il y a un déficit commercial américain de 508 milliards de dollars. Là-dessus, il y a 120 milliards de dollars qui sont dus à l'Europe, le reste étant principalement dû à la Chine. Sur ces 120 milliards, il y en a 60 milliards qui sont dus à l'Allemagne. Ça fait des années. Pendant les deux mandats de Barack Obama, à chaque sommet du G20, à chaque sommet du G7, le secrétaire d'État au commerce disait, demandez aux Allemands, respectez les traités, vous avez trop d'excédents commerciaux. Parce que c'est ça que les gens parfois ne comprennent pas. C'est pas juste que les produits allemands sont bons et meilleurs et qu'ils ont su gérer leur coût du travail, c'est qu'ils ne respectent pas la règle des traités.
Oui, mais là, on a l'impression qu'il puisse y avoir un excédent. C'est que oui, c'est, mais ce que je veux dire, c'est une promesse de, aussi protectionniste. On a vraiment cette impression-là aussi de la part des Américains.
Bien sûr, voilà. Mais c'est du protectionnisme parce qu'il dit, ça fait des années qu'on vous demande de bien vouloir respecter la règle, donc puisque vous la respectez pas, ben je vais te taper sur la tête. Peut-être que ça, tu vas le comprendre. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que là, la menace, pour l'instant, elle est relativement limitée parce qu'on n'exporte pas tant d'acier que ça aux États-Unis, ni d'aluminium, parce que c'est les deux trucs principalement concernés. Mais derrière, Donald Trump vise l'industrie automobile. Suivez Manga, il vise les Allemands. Sauf que là, pour le coup, la France pourrait. Et quand je vous disais tout à l'heure, l'Europe là-dessus n'a pas du tout les mêmes intérêts, c'est que l'Allemagne, elle a déjà 30 milliards, pareil, d'excédents sur la France, alors que ce qui est plus que notre déficit total.
Étienne Girard, on le voit, Emmanuel Macron, pour revenir sur la France, porte beaucoup l'Europe, il parle toujours de ce projet européen. Là, il a dit que c'était scandaleux, etc., que c'était presque illégal, hein, d'ailleurs, le terme de l'Élysée hier. Ça semble bien faible, en fait, on a l'impression, à ses réponses par rapport à cette guerre commerciale-là.
C'est toute la limite de la politique d'Emmanuel Macron, qui exalte, depuis qu'il est élu, un volontarisme. Je veux, donc je peux. Là, on se rend compte qu'il peut vouloir, il peut faire des câlins, des bisous à Donald Trump. Il peut pas grand-chose tout seul avec ses petits bras. Donc, il va falloir réapprendre le dialogue, la négociation, le rapport de force, peut-être des concessions, peut-être de la modestie, peut-être un peu moins d'arrogance. Et c'est comme ça.
Enfin, en même temps, Donald Trump n'est pas ni spécialement modeste. Il manque pas d'arrogance. Et pour autant, il a la main. Donc, je suis pas sûr que si tout se jouait sur la psychologie d'Emmanuel Macron.
Oui, ils n'ont pas la même place.
Ce qu'Emmanuel Macron va devoir faire, c'est surtout gérer le problème au niveau européen. Encore une fois, ça va être ça, la clé. C'est pas seulement les négociations avec les États-Unis. C'est de dire, parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est, on squatte sur leur pelouse, et puis, l'autre, il nous fout une baffe. Et puis on vient se plaindre parce qu'il nous a foutu une baffe. On squattait sur leur pelouse.
Madame Safavi, est-ce que c'est un test de nouveau pour voir si nous sommes bien unis, c'est ça ou pas, au sein de l'Union européenne? On a l'impression qu'on passe des crash tests en permanence, quel que soit le sujet.
Non, mais c'est normal, c'est compliqué. Un mariage, c'est compliqué. Un mariage à 27, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué. Et puis, mais c'est sûr que je suis d'accord que Donald Trump ne fait jamais les choses par hasard. C'est un businessman. S'il durcit les règles, c'est pour essayer d'obtenir quelque chose en échange. Et c'est là où l'Union européenne va devoir se mettre d'accord si elle veut survivre.
Allez, dans un instant, on va parler de Gérard Collomb. Et oui, à 20h40, le vendredi, on parle toujours de Gérard Collomb. On y vient dans un instant, l'info justement, à 20h40, Mélodie Pépin.
Bruxelles félicite Giuseppe Conte, mais lui rappelle la responsabilité de l'Italie dans l'UE. Giuseppe Conte, nouveau chef du gouvernement italien, investi cet après-midi à la tête d'un gouvernement populiste. Il promet un bon coup de ciseau dans les fonds destinés à l'accueil des demandeurs d'asile, mais pas de sortie de zone euro en vue. Le début d'une nouvelle ère pour le FN, ne l'appelez plus comme ça, c'est désormais Rassemblement National, un nouveau nom adopté à plus de 80% par les adhérents lors d'un vote. Résultat annoncé tout à l'heure par Marine Le Pen à Lyon, un nouveau nom, mais la flamme sur le logo reste désormais entourée d'un cercle. Un homme de 50 ans a été arrêté et mis en examen pour le viol d'une fille de 12 ans près de Rennes alors qu'elle rentrait à pied chez elle mardi. Il l'a enlevée, séquestrée pendant 2 heures, puis l'a reconduite non loin du lieu de l'enlèvement où elle a été recueillie par des passants. Prévoyez des trains en moins ce week-end, grève à la SNCF, elle l'a repris ce soir, 13e séquence, jusqu'à lundi matin. Les trains de région sont les plus touchés, avec un TER sur 2 prévu et 2 intercités sur 5, comptez 4 TGV sur 5. Mardi, les sénateurs doivent voter la réforme.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Ah, Gérard Collomb, mais que deviendrions-nous sans lui, hein? On comprend mieux pourquoi les guillemets de l'info s'arrêtent, ils ont trouvé bien meilleur qu'eux. Que ce soit sur des manifestants complices des casseurs, la PMA pour toutes ou les 80 km/h, voilà maintenant qu'il crée la polémique avec ses propos sur les migrants. Auditionnés hier par le Sénat, le ministre de l'Intérieur n'a pas hésité à parler comparaison hein, de terres d'exil et d'asile, limite PowerPoint, Gérard Collomb.
Puis-je vous dire, monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez, par exemple, que telle nationalité, que là encore, je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile.
Voilà, Gérard Collomb, donc au Sénat, auditionné au Sénat. Frédéric Matonti, ce terme, benchmarking.
Alors, il me semble que Nathalie Loiseau a parlé de marché de l'asile.
Shopping de l'asile.
Bon, c'est alors là, le terme étant entre le marketing et les politiques publiques, hein, mais bon, on est dans le même registre, c'est-à-dire que il dit des choses énormes, bien sûr. D'ailleurs, Robert Ménard a trouvé ça formidable. Voilà, j'avais pas vu, hein, je l'avais lu, mais je l'avais pas vu. Quand on le voit, c'est encore plus effondrant. C'est-à-dire qu'il est vautré sur son bureau. Enfin, il y a un côté absolument incroyable. Il est en roue libre totale, en effet. Et en même temps, je pense qu'il dit tout haut ce qu'une partie de ce gouvernement pense tout bas. Donc, c'est pas non plus, enfin, personne l'arrête, hein. Personne l'arrête, personne proteste. Apparemment, c'est pas un fusible prêt à sauter. Bon, donc, je pense qu'on sait, on lui fait beaucoup de pub aussi. Hein.
Bah non, mais on en parle.
C'est non, pour mais ça je suis d'accord. Ouais, mais normal, je veux dire, tout est très cohérent dans ce qu'il dit. Et s'il y a bien une chose dont on peut se féliciter, j'ai pas toujours été d'accord avec la politique de François Hollande, mais c'est comment il l'a tenu très éloigné de tous les gouvernements socialistes.
Étienne Girard, ce terme, donc voilà, de nouveau. Hein, je sais que quand vous étiez venu la dernière fois, on avait parlé de je ne sais plus quoi.
Toutes les semaines.
C'était sur les manifestants. à chaque fois, c'était voilà sur ça. Pourquoi il le fait, là, Gérard Collomb? Alors, Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, ils expliquent que le ministre de l'Intérieur parlait des passeurs. Voilà. Mais pourquoi il ne le dit pas explicitement, en fait?
C'est ça du tout.
Je pense pas qu'il parlait des passeurs. Mais contrairement à ce que disent beaucoup de gens, moi, je crois pas du tout à la théorie de la roue libre. Je crois pas que c'est un papy gâteau qui se lâche en bout de table comme ça. Je pense qu'au contraire, c'est extrêmement réfléchi. Gérard Collomb, c'est un stratège politique. Et toute sa carrière est du... encore plus depuis qu'il a été élu à la mairie de Lyon, il pratique ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire qu'il reprend des thèmes de la droite en s'affirmant contre la bien-pensance. Voilà, il tient un discours de vérité. Et quand il fait ça, c'est un clin d'œil à cette France qui, c'est vrai, on a par-dessus la tête des migrants, pour caricaturer. Ils comprennent très bien ce que c'est que le benchmarking. Quand il s'agit d'être xénophobe, il y a toute une partie de la France
qui comprend très vite les concepts. Voilà, faut expliquer entre deux entreprises. Jean-Sébastien Ferjou, pour vous, ce terme, il est choquant, benchmarking?
Il est malheureux, c'est-à-dire que effectivement, comme il s'inscrit moins que celui de Nathalie Loiseau sur le shopping de l'asile, parce que là, on a l'impression que c'est une activité d'autres. Je suis sorti samedi après-midi, tiens, je suis allé m'acheter un pays d'asile. Mais non, je pense qu'il décrit une réalité qui existe, bien sûr, sinon Calais n'existerait pas. Parce que sinon, quand on propose à des migrants qui sont à Calais de rester en France des papiers et qu'ils disent non, je préfère aller au Royaume-Uni, c'est bien parce qu'ils font une comparaison à minima entre la France et le Royaume-Uni. Donc l'idée qu'il décrit d'une comparaison, elle ne me paraît absolument pas choquante. Après, le mot qu'il emploie, effectivement, ça renvoie toujours à cette espèce de vocabulaire macronien de absolument vouloir parler en franglais, je sais pas, parce qu'ils doivent trouver que ça fait...
Je
trouve le choix du mot étrange, la réalité qu'il décrit, oui, elle existe. Je pense qu'il fait notamment référence en matière d'asile. Regardez qui sont les demandeurs d'asile principaux en France. Ce ne sont pas les Syriens, ce sont des Albanais ou des Haïtiens. Donc, il y a effectivement une part de ça qui se joue et c'est pas méprisant. Parce que du point de vue du migrant, il est logique d'essayer de trouver le pays. Non, mais je veux dire, les migrants sont pas des imbéciles.
Il ne s'agit pas de parler d'imbécilité. Il s'agit d'avoir absolument aucune vision de ce qu'est la réalité aujourd'hui d'un migrant qui passe.
Précisément, si, il en a une. Non, mais parce que vous le prenez sur le terrain de la morale, mais il y a une réalité qui n'est pas celle de la morale.
Je veux dire, c'est pas une question de morale.
C'est celle de la réalité.
C'est pas une question de morale. Je veux dire, ça n'est pas une question de morale de rappeler dans quelles conditions les gens passent les frontières et quittent un pays.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'il décrit.
Bah, lui, si, ça a tout à voir.
Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il décrit. Lui, il vous dit, les gens, par exemple, qui viennent de pays où ils sont anglo-saxons, préfèrent aller au Royaume-Uni et en plus, ils considèrent que le Royaume-Uni, qu'il est plus facile pour un sans-papier, ce qui n'est pas faux, de s'intégrer au Royaume-Uni quand le Danemark a fait des campagnes de pub.
Ça n'est plus vrai du tout depuis les dernières lois en cours.
Quand le Danemark avait fait des campagnes dans la presse libanaise pour dire ne venez pas, pour les migrants syriens, ne venez pas parce qu'on vous fera payer vos frais de séjour, on ira jusqu'à vous retirer vos bacs de fiançailles. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est la même logique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui choisissent une destination par rapport à l'idée qu'ils s'en font. À tort ou à raison, parce qu'il y a aussi beaucoup de légendes et ça ne veut pas dire...
Beaucoup de fantasmes.
Ça ne dit rien. Là, il s'est pas exprimé sur le fait qu'ils disent ces gens-là, ils auraient tout aussi bien pu rester chez eux parce que finalement, il parle pas de ça. Il dit pas, tiens, ils font une comparaison hyper pointue entre les systèmes d'allocation. Il ne parle pas de ça. Après, le choix du mot,
c'est le choix des mots, c'est ça. Amdam Mostafavi.
Oui, on est quand même dans une séquence d'un certain cynisme, puisque en début de semaine, on nous fait l'éloge de Mamadou Gassama, qui est le héros migrant qui va sauver les petits enfants. Après, on tombe là-dessus. En fait, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une réalité qui existe, puisque en effet, les migrants réfléchissent à où est-ce qu'ils ont plus de chances de réussir à s'installer et à être acceptés. Ça, c'est pas complètement fou. Mais ce que j'aime pas dans l'utilisation de ce mot, c'est quand on fait encore une échelle entre les migrants, entre la valeur des migrants. C'est la même chose dans cette affaire de Dibetsumène avec M. Gassama. C'est-à-dire, il y a ceux qu'on pourrait accepter parce que c'est des Syriens.
En fait, c'est le gouvernement qui fait un benchmarking.
Ouais, c'est ça.
Il y a le héros et puis il y a celui qui fait du shopping. Alors celui-là.
Une chose, Étienne Girard, quand même, à propos de Gérard Collomb. Donc, le gouvernement passe tout à Gérard Collomb.
Oui, parce que c'est le grand ami et ça a été le protecteur d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a un malaise, il y a peut-être un malaise dans la majorité.
Voilà, on sent bien qu'il y a un petit souci, quoi. Quand il parle de Gérard Collomb, c'est compliqué.
Mais Gérard Collomb, n'oubliez pas qu'il est ministre d'État. C'est qu'un titre peut-être honorifique, mais ça veut bien dire que pour Emmanuel Macron, c'est son plus proche collaborateur après Édouard Philippe. Aux réunions de la majorité, il écoute un peu Édouard Philippe. Il écoute un peu Alexis Kohler, son secrétaire général de l'Élysée. Et la troisième personne qu'il écoute, c'est Gérard Collomb. Il n'y en a pas d'autre.
Donc il a une vraie influence, véritablement.
Mais surtout, il a une vraie influence. Je sais pas, ça va faire jouer après. Mécaniquement, justement, parce que vous venez de décrire, il y a un Premier ministre qui ne vient pas de la même famille politique qu'Emmanuel Macron. Qu'Emmanuel Macron a pris parce que ça l'arrangeait d'aller affaiblir la droite. Mais enfin, je ne sais pas s'il le respecte plus que ça, la vision politique fantastique d'Édouard Philippe. Oui. Et il a besoin d'un contrepoids. Il a plus de François Bayrou. Il est bien obligé de s'appuyer quand même. Et on l'a vu sur les 80 km/h. Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne crois pas. Gérard Collomb a pu être confus dans ses propos parfois, se tromper dans les chiffres, faire des erreurs au moment de l'attentat de Trèbes, par exemple. Il a pu être confus. Mais quand il fait sa sortie et qu'il la répète sur les 80 km/h, c'est pas parce que c'est un vieux monsieur qui est plus étanche. C'est parce que c'est un signal politique. Et il disait autre chose aussi, Gérard Collomb. Il disait attention, Édouard Philippe ne traite pas bien les élus locaux. Donc je pense qu'il est aussi utilisé par Emmanuel Macron. Alors après, en fonction des cas, quelle est la part de l'utilisation par Emmanuel Macron ou qu'est-ce qu'Emmanuel Macron laisse faire? Parce que malgré tout, il a besoin d'un contrepoids et d'un poids lourd. Et puis, il n'en a pas 36 à sa disposition.
Allez, dans un instant, on va parler d'un anniversaire qu'on a repeint en vert. L'info à 20h50, Mélodie Pépin.
Le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un aura bien lieu. Le président américain a confirmé la tenue de cette rencontre historique le 12 juin à Singapour. Après un premier échec, le dialogue avec les Nord-Coréens sera un processus couronné de succès, a assuré Donald Trump. À Marseille, un homme a été poignardé à mort en plein centre-ville en fin d'après-midi. Il avait une vingtaine d'années. Il a été attaqué pour un motif futile, selon la police qui a interpellé l'agresseur quelques heures plus tard, gare Saint-Charles. Des files d'attente à la caisse des magasins en Europe aujourd'hui. Impossible de payer avec sa carte Visa. Une interruption de service empêche certaines transactions et la cause n'a toujours pas été identifiée, mais les retraits en distributeur ne sont pas affectés. Les marionnettes des guignols de l'info au placard, l'émission phare de Canal+, s'arrête définitivement à la rentrée. Elle était en sursis depuis l'arrivée de Vincent Bolloré, qui lui reprochait de se moquer des autres. La fin de 30 ans de satire, bon débarras, a réagi l'eurodéputé LR Nadine Morano sur Twitter. Et dans moins de 10 minutes, le coup d'envoi à Nice pour le deuxième match de préparation des Bleus avant le Mondial de football. La France rencontre l'Italie pour ce match test. Didier Deschamps fait des changements en attaque. l'attaque, c'est Dembélé, Griezmann et Mbappé. Dans l'entrejeu, Pogba et Tolisso sont alignés.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste peu de temps, voilà, pour parler d'un anniversaire. Souvenez-vous, il y a un an, eh bien, Emmanuel Macron s'est mis à parler en anglais, eh oui, et ça donnait ça.
I call on you to remain confident.
Je vous demande de rester confiant.
We will succeed.
Nous réussirons.
Because we are fully committed.
Car nous sommes complètement engagés. Parce que où que nous vivions, partout où nous nous trouvons, nous partageons une même responsabilité.
Make our planet great again.
Voilà, bon d'accord, en fait c'était il y a un an et un jour, hein, puisque en fait c'est la veille, Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord climat, depuis Emmanuel Macron est devenu écolo en chef, courant les sommets pour dire que la planète souffre, fréquentant les naturalia, n'utilisant que des toilettes sèches, ça c'est à l'international, car au niveau local, en France, eh bien le président de la République est un vert en demi-teinte. Si l'État donne davantage au groupe scientifique du GIEC, concernant le nucléaire, les hydrocarbures ou l'alimentation, c'est contrasté, sans parler du glyphosate qui a créé un vrai psychodrame. Frédéric Matonti, c'est vrai que un an après, pour vous, est-ce qu'on peut dire Emmanuel Macron écolo?
Ah ben non,
non
on peut pas.
Voilà. Merci.
On peut pas. Non, non, vous avez résumé quoi, voilà, sur ça, le glyphosate, c'est en dessous des, c'est très en dessous des promesses. Donc les poules pondeuses hors sol, ben oui, la castration à vif des cochons, le broyage des petits poussins et tout ça, ben il y a tout. Quoi.
Très bien, bon appétit.
Donc ouais, bon appétit. Je suis désolée.
Voilà, et sur le nucléaire aussi, sur des choses comme ça.
Sur le nucléaire, ça j'en parle même pas. Mmh. Bon, et puis on a le grand chef à valeur de couleuvre, Nicolas Hulot. C'est plus des couleuvres, c'est des boas. Enfin, c'est presque. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais pensé qu'il était de gauche, Macron. J'ai jamais pensé qu'il était vraiment écolo. Je pensais bien qu'il prenait Hulot de manière tactique. Mais il y a un moment où c'est tellement cynique que ça devient incroyable. Ce qui s'est passé là, au moment de la loi sur l'alimentation, on a vu des députés qui avaient signé des tribunes pour dire faut faire interdire le glyphosate et qu'on votait autrement quand elles étaient à l'Assemblée. C'est totalement, voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement que les lobbies sont là, ils servent, et tout va bien, quoi. Même la loi sur l'indemnisation des agriculteurs touchés par les pesticides, même ça, même l'amendement, je veux dire, même ça, c'est pas passé. Enfin, c'est... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre.
Moustapha Favier, on a vu il y a un an, Emmanuel Macron, finalement, comprendre que l'écologie pouvait être aussi une source de communication et prendre ça au niveau international, c'est vrai que ça l'a porté. Il y a une différence entre sa posture internationale et sa posture française.
Oui, il y a une énorme différence entre les. C'est comme ça sur l'Europe, c'est comme ça sur l'immigration, c'est comme ça sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire que il y a le côté glamour qu'il vend à l'international et puis il y a qu'est-ce qu'il fait exactement après. Évidemment, tous les pays viennent pas forcément regarder tout ce qu'on fait derrière, mais il a voulu prendre la place justement laissée par Trump d'être le leader sur ces questions-là. Un an après, c'est sûr que même si la France veut être leader sur les accords de Paris, ils n'ont pas vraiment su comment convaincre, et notamment comment convaincre, on revient au sujet tout à l'heure, sur l'Union européenne, mais par exemple, même au sein de l'Union européenne, la COP24, ça va se passer en Pologne, et on a déjà des problèmes à expliquer aux Polonais qu'il faut arrêter les centrales à charbon.
Ouais,
donc
ça,
c'est un petit peu compliqué d'aller au-delà de la posture.
Étienne Gérard, on a vu en effet cette semaine une nouvelle fois donc glyphosate, Frédéric Matonti parlait de Nicolas Hulot, alors je ne sais pas si on peut encore en parler au gouvernement ou pas, mais bon voilà, puisque lui a dit qu'il se donnait encore le temps pour réfléchir, et ça devrait être... cet été pour vous, mais pendant la campagne d'ailleurs, est-ce qu'il était écolo, Macron?
Pas du tout.
Non.
À part ce discours que vous avez montré, plein de panache, où il encourage les chercheurs américains à venir en France, Emmanuel Macron ne s'est jamais montré sous un jour particulièrement écologiste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris Nicolas Hulot en assumant. Il lui a dit, moi j'ai pas de culture écolo, donc tu vas m'apprendre, je vais te laisser carte blanche. Un an après, on voit que ça a pas été du tout le cas. Total, la culture qui est la sienne, c'est-à-dire la culture de Bercy, la culture du budget, la culture de des moins de 3% du déficit, a pris le pas. Et cette culture, elle ne pense pas du tout le temps long, parce que le temps long, il ne fait pas rentrer un budget à l'équilibre. La culture des moins de 3%, la culture de Bercy, elle pense pas l'écologie. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nicolas Hulot, il est totalement le bec dans l'eau et qu'il réfléchit de plus en plus sérieusement à une démission à court terme.
Oui, ça peut être un problème, Jean-Sébastien Ferjou, pour le gouvernement, justement, cette démission, Nicolas Hulot, sur l'image aussi de ce gouvernement.
ça peut pas être une bonne nouvelle. Après, un problème grave, je ne crois pas, parce que précisément, Emmanuel Macron n'a jamais spécialement cherché à convaincre. C'est pas là-dessus qu'il s'est fait élire. Il y en a d'autres qui jouent cette carte politique-là. Lui ne l'a pas particulièrement joué. Il l'a joué sur un tout autre registre, qui est celui de la mise en scène de sa propre personne. Et je sais pas si le discours Make Our Planet Great Again était écolo. Il était en tout cas assez mégalo.
Ah bien, oui.
Parce que, non, mais pas forcément dans l'objectif en tant que tel, mais encore une fois, le décalage entre l'ambition qu'on se donne et les moyens qu'on y consacre ou qu'on sait pouvoir y consacrer, bah, fait qu'on voyait bien que c'était plus que, il est très content quand il parle en anglais et quand il parle longtemps. Il est très content quand il y a des gens qui l'écoutent religieusement. Ça, on a bien compris. Ça n'a pas grand-chose à voir ni avec l'environnement, oui, ni avec la géopolitique. Ça a plus à voir avec lui. Mm-hmm. Après, sur l'environnement, je pense que non, la démission... Parce que Nicolas Hulot, paradoxalement, qui est une star, parce que c'est quand même tous les gouvernements précédents avaient tenté de ramener à eux, c'est une star, et il est populaire, n'a pas su jouer justement de sa capacité à capter la lumière pour porter... Parce que Nicolas Hulot, on le créditait de deux choses. On le créditait de ne pas être un doux rêveur, c'est-à-dire de ne pas être...
concret, exactement,
voilà,
c'est
une
ça
espèce de, je sais pas quoi, en sabots, dans des perdu, coincé dans des toilettes sèches, d'être capable de vivre dans la modernité, mais quand même de prendre en compte des considérations d'environnement. Absolument pas supporter ces questions-là dans l'opinion publique.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer pour cette semaine. Merci beaucoup d'ailleurs Jean-Sébastien Ferjou d'être passé ce soir. Merci Frédéric Matonti. La une de Marianne, Étienne Girard.
Oui, les marchés contre les peuples en Italie.
Très bien. Et la une de Cour Internationale.
Ils font New York.
Ah voilà, formidable. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes.